Vous savez quoi, ce matin, Dieu a mis un mot sur mon cœur et j'ai mis du temps à savoir ce qu'il voulait. Il m'a mis un mot qui est le mot Lego. Vas-y Cassandre, mets-moi le... Cassandre, tu vas m'aider parce que je vais devoir un petit peu... Lego. Alors vous avez vu l'image que j'ai mis derrière ? Lego. Tout le monde sait ce que c'est, ce sont des Lego ? Ça va ? Eh oh ! Réveille ! Vous êtes avec moi ? Voilà, ça va mieux. Allez. Et si vous avez besoin de vous décrasser les jambes, allez-y, levez-vous. Faites un petit bisou à votre voisin pour dire bonjour. Mais allez, on y va. Lego. Lego. Et vous savez quoi, je vais parler des Lego. Et en fait, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure de mon étude, du moment où je me suis plongé dans ma prédication, je me suis rendu compte vraiment de ce que Dieu voulait par ce mot Lego. Parce que moi, je me suis cantonné au petit jeu de construction. Alors petit, c'est pour certaines pièces, c'est pas petit parce qu'il faut du temps, il faut de la patience. Et je vais vous en montrer d'ailleurs. Mais je me suis cantonné à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que l'ego, ça va bien plus loin que ça. Et c'est là où on voit l'humour de Dieu. C'est qu'il va se servir de choses, on va dire du monde, pour pouvoir nous parler. Alors, je vais vous montrer juste. Hein. Vous voyez, j'ai mis un drap parce que je ne voulais pas que les enfants viennent me piquer ça. C'est juste une illustration. Certains vont dire, Frédéric, tu es un grand enfant. Eh bien oui, je suis un grand enfant. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans la vie. J'aime bien, tout le monde le sait, j'aime bien les voitures, les motos, les camions, j'aime bien ça. L'un de mes rêves qui n'a jamais été accompli, ça a été de conduire des camions. Voilà, mon rêve, c'était de conduire des camions. Mais j'aime beaucoup les belles voitures. Et donc, voilà, je vais vous montrer cette voiture-là. Regardez ça. Ah, il y en a une qui a cafeté. J'aurais dû me taire. Vous savez quoi, j'ai eu ça à mon anniversaire au mois de décembre. Et c'est là où je trouve ça super, super amusant, c'est que pour avoir ce style d'outil, ou ce style de loisir, ou ce style de jolies choses, eh ben on va passer du temps pour la construire. On passe du temps. Et vous voyez, par rapport à ça, quand on achète un outil ou un objet comme celui-là, on a un guide qui est là. Et vous voyez le nombre de pages et le nombre d'étapes à passer. Il y a plus de 300 étapes, 313 étapes. Et encore, je peux faire du tuning avec, etc. Ce que je veux dire par là, donc pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est une Ford Mustang. J'aime les Ford Mustang. Il y en a d'autres qui aiment les Ford Mustang ici ? Voilà, c'est ma Ford Mustang. Pourquoi j'en viens là ? Lego, en fait... C'est un mot qui a attrait un jeu de construction et il faut savoir que ça existe quand même, ces jouets-là, parce que ce sont des jouets, ça existe depuis 1932. Et le créateur de Lego, il s'est servi de mots suédois, il a créé ces jeux de construction et puis il a voulu dire « amuse-toi bien ». Donc il a pris deux mots suédois, je vais vous éviter la prononciation parce que je ne parle pas suédois couramment, j'en parle beaucoup d'autres sauf celle-là. Et en fait, ce qu'il voulait lui, c'était dire « amuse-toi bien. » Et en fait, il ne s'est pas rendu compte que l'ego en grec, ça a une signification, que l'ego en latin, ça a une signification, et que ces significations, eh bien, on peut les prendre pour nous spirituellement. Et là où je veux vous montrer une image, et vous savez que j'aime imager mes prêches, c'est qu'avant d'en arriver là, il s'est passé pas mal d'heures. Donc j'ai pris beaucoup de temps, parce que j'ai pris mon temps pour la faire. J'ai pris les étapes et je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais faire telle ou telle étape, parce que j'avais envie d'arriver à quelque chose qui me fait plaisir. Et pendant ce temps-là, pendant que je construisais ma Mustang, je me faisais plaisir. Et déjà à la base, quand on m'a offert ma Ford Mustang, on m'a fait plaisir. Non, tu touches pas, c'est ma Ford Mustang. Et moi, je voudrais faire un parallèle par rapport à ça et par rapport à l'Église, par rapport au fait que Dieu veut construire des choses dans nos vies et il prend son temps pour les construire. Ça va ? Vous êtes avec moi ? Vous êtes toujours dans cette démarche ? Et on va aller assez loin ce matin parce que j'ai découvert pas mal de choses et puis je suis excité parce que j'ai tellement de choses à dire, c'est que je sais pas dans quel sens je vais partir. C'est quelque chose qui est là, et il faudrait plusieurs dimanches pour pouvoir faire une prédication comme celle-là, parce que ça nécessiterait plusieurs parties. D'accord ? Et puis, j'ai retrouvé ça dans mon garage. Donc, ce sont également des... Merci. Et c'est resté dans l'état tel que soit Cassandre, soit Nicolas a construit quand ils étaient petits. Et c'est une maison. Et pour moi, ça a été un signe, parce que la première chose que fait un enfant quand il prend des Legos, souvent, il construit une maison. Et en fait, on se rend compte que là, bah Dieu fait exactement la même chose. Pièce par pièce, il construit sa maison, son église. Et qu'à partir du moment où il continue, et vous savez que la pierre angulaire, c'est Jésus. La pierre angulaire, celle de l'angle en bas, c'est Jésus. Et même Jésus a dit à Pierre, à son apôtre, il a dit, voilà, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est d'ailleurs pour ça que les catholiques, aujourd'hui, ont construit le Vatican à Rome, parce que, soi-disant, que c'est la tombe, que Pierre a été enterré là où il y a le Vatican aujourd'hui. Et ils se sont dit, bah, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, ils ont construit le Vatican sur la tombe de Pierre. C'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Dieu veut construire son église sur quelque chose de bon, sur une construction qui est bonne et saine. Et c'est là où on va aller, et c'est là où il y a quelque chose qui, pour moi, est super intéressant, parce qu'en fait, le terme Lego, c'est dire. C'est le verbe dire en latin, en grec, pardon. Je vais mélanger le grec et le latin, soyez pas surpris, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est un peu complet. Donc, voilà. Donc, le verbe Lego, c'est dire. C'est un verbe qu'on va retrouver dans la Bible 1238 fois, dans le Nouveau Testament. Essentiellement dans le Nouveau Testament. Le verbe dire, vas-y Cassandre. Et c'est pour ça que, en plus de ce mot que j'ai reçu de Dieu, j'ai voulu dire sur ma parole. Est-ce que c'est une expression que vous connaissez, sur ma parole? Pour ceux qui lisent la Bible, on entend souvent parler de parole dans la Bible. Jésus est la parole. Et c'est d'ailleurs là où... Le premier verset qu'on peut prendre, c'est Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On parle de qui dans ce verset? On parle de Jésus. La parole, et en fait le terme de parole ici, vous l'avez trois fois dans ce verset-là, c'est le terme logos. Logos, c'est parole, c'est la parole, le logos. Il y a le réma qui est la révélation. Tout à l'heure, il y a Alice qui a parlé du réma dans ses prieres. Mais le logos, c'est vraiment la parole faite chair. C'est Dieu, c'est Jésus qui a été fait chair. Et il y a vraiment cette notion de logos. Et vous savez d'où vient le terme logos? Et là, tout le monde dit non. C'est bien. Ça vient de l'ego, du terme l'ego. Le terme Lego, la parole, vient de la construction. La construction, et c'est là où le créateur de Lego s'est dit, il a dit, vous pouvez lire ça sur Google ou n'importe où, il dit, mais moi je ne savais même pas que Lego, ça voulait dire construire. Construire, la notion de construction. Dieu est en train de construire son église, là, pierre par pierre. Et ce que je pourrais faire éventuellement, et ce que j'aimerais, mais on n'a pas le temps, je ne vais pas non plus prendre trop de temps pour ça, je pourrais démonter cette belle maison-là et vous donner à chacun une pièce. Parce que vous êtes chacun une pièce de cette église. Chacun une pièce de la construction de Dieu. Et là, la foule s'écrie d'un grand « Amen, Fred, c'est vraiment beau ce que tu as. Ouais. » Allez, on va lire un passage, c'est là où ça va vous exciter, vous allez voir. Luc 5, versets 1 à 11. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, » Jésus prêchait souvent aux foules, hein. Il se mettait au bord d'un lac, parfois il était obligé de s'éloigner, se mettre sur l'eau dans une barque et parler de la mer sur les gens de la côte. Il devait avoir une voix qu'il devait porter, je pense, parce que bon, aujourd'hui essayer d'aller parler avec les vagues. Donc il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il y a beaucoup d'images, hein. Mettez-vous dans ce contexte de ce passage-là et voyez le nombre d'images qu'il peut y avoir et du nombre de significations dans ces événements qu'on peut donner. Alors, je ne suis pas là pour tirer les cheveux, parce que vous savez que j'en ai beaucoup, tirer sur la corde ou quoi que ce soit, mais je pense que dans ce passage-là, il y a un nombre d'images qui sont bonnes à prendre. Donc là, tout d'abord, Jésus prêche la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » D'accord ? On prêche la parole, on boit la parole, on mange la parole, on digère la parole, et après, eh bien, on va jeter les filets. C'est-à-dire que notre objectif, c'est que cette bonne nouvelle qui est en nous, parce que je vous rappelle, on est le temple du Saint-Esprit, ça va ? On est le temple du Saint-Esprit, et donc à partir de là, on a la parole qui vit en nous, on a la parole, c'est qui ? C'est Jésus qui vit en nous. Notre désir, c'est de pouvoir partager ça à tous ceux qui sont autour de nous. Hier, je me suis fait gronder. Je vous donne un petit témoignage. On a passé une journée un peu chargée, parce que vous savez qu'avec Parcoursup, tout le monde se connaît, Parcoursup, quand vous avez un élève qui est en terminale, et à la maison on en a deux en terminale, eh bien il faut s'occuper de leur avenir. Et donc hier, ça a été la grande journée, des journées portes ouvertes dans les universités, dans les grandes écoles. Donc on a saccadé la journée en deux, le matin on s'est occupé de Nicolas, donc on a fait des écoles sur l'île, l'après-midi on s'est occupé de Cassandre, et on a fait plusieurs écoles sur l'île. J'en ai bien chargé. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on était là et on n'avait pas beaucoup de temps. Et puis on a été accueillis dans la première école par deux jeunes filles qui étaient au demeurant très très sympathiques. Et puis, de fil en aiguille, il y a deux, je ne vais pas dire deux clans, mais deux petits groupes qui se sont scindés. Pascaline et Nicolas étaient avec une des jeunes filles. Et puis moi, j'étais avec l'autre jeune fille. Et puis, le fait est qu'elle me dit, ben voilà, pendant mon cursus, je suis allé faire un stage au Canada. Alors moi, il ne faut pas me parler Canada, parce qu'il non plus, parce que c'est on aime beaucoup le Canada, le Québec. Et donc, j'ai commencé à parler du Québec. Je dis, ben voilà, ouais, c'est super. Donc, elle me dit, je suis allé dans des fermes, etc. Je me suis fait des amis, je dois retourner au Québec. Alors, je dis, mais c'est super, le Québec. Enfin, bon, ouais, un peu tout la discussion, etc. Et puis, à un moment, je me dis, mais il faut que je lui parle. On commence à parler de guitare. Je lui dis, voilà, moi, je suis guitariste. Elle me dit, ben oui, ben là-bas, j'ai acheté une guitare, une Taylor. Et tout. Oh, je dis, ouais, c'est bien, une Taylor, machin. Et de fil en aiguille, j'ai fini par lui parler de l'Église. Je lui ai dit, ben voilà, moi je suis pasteur, je connais du monde là-bas à Montréal, je connais des chrétiens qui sont là-bas. Il y a une grosse église qui est pas loin de Montréal, etc. Et j'avais cette soif, j'avais cette envie et j'ai senti ce besoin de pouvoir lui parler à cette jeune fille de ce que j'avais en moi. Au-delà du père de Nicolas qui venait se renseigner pour sa formation, j'avais envie, j'avais ce besoin et je pense que Dieu a bien dirigé les choses. Je me suis retrouvé toute seule. Et puis, à un moment, d'elle-même, elle me parle. Donc, on parle de musique, de louange. Elle me dit, alors oui, vous faites quoi comme style de musique? Ben, je dis, ben voilà, aujourd'hui, on parle de gospel. C'est pas du gospel, c'est pas du négro spiritual. Voilà. Et donc, je lui explique un petit peu les choses. Ce sont des paroles qui sont bien dirigées vers Dieu, etc. Elle me dit, oui, à Montréal, je connais le groupe Impact. Ben, je dis, ben, ça tombe bien, c'est l'église dont je viens de te parler qui est à Montréal, ils sont là, ils sont dans ces... Ah ben je vais y aller. Et donc de fil en aiguille, elle me dit, voilà, moi la prochaine fois que je vais aller à Montréal, je vais aller à côté, à Longueuil, dans cette église, pour voir ce groupe Impact, etc. Et ben j'avais semé, de par ma parole, le fait que Dieu avait dirigé les choses, j'avais cette soif, j'avais la parole qui était en moi, il fallait que je partage cette parole. Il fallait que je puisse donner à cette jeune fille cet espoir que moi j'ai dans mon cœur. Et donc j'aimerais un jour, Antoine dit souvent ça, et c'est vrai quelque part, c'est amusant, mais j'aimerais quand on va être avec Jésus plus tard, qu'elle puisse venir me voir, me taper sur l'épaule et dire, tu te souviens de moi, on s'était rencontrés à l'école, etc. Eh bien regarde, je suis là avec toi aujourd'hui, parce que ce que tu as mis dans mon cœur, je l'ai reçu. Et cette petite graine que tu as mis dans mon cœur, elle a germé. Et puis quand je suis retourné au Québec après, ben, je suis allé voir dans cette église-là, et j'ai donné ma vie à Jésus. Et quand je suis sorti de là, parce qu'il m'a dit, t'es gonflé quand même, attends, on était là en train de parler pour Nicolas, puis toi, tu t'es mis à part avec elle, tu n'étais plus avec nous. Bon, elle a bien compris, hein. Je lui ai dit, écoute, voilà. Et il y a plein de choses, Dieu nous a montré des choses dans cette école, et à un moment, je vois, je ne vais pas vous raconter tout le truc, mais il y avait une pièce, et puis il y avait toute une banderole, je ne sais plus la phrase qui était dessus, il y avait une colombe avec une phrase biblique. Hein. Je dis, et puis on était accompagné par deux jeunes garçons. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est là où se réunissent les chrétiens, dans l'école. Je dis, mais c'est génial ça. Et donc là aussi, j'ai pu dire, et on est reparti pour un tour. Et c'est ça notre envie. On a cette soif en nous, on a dans nos tripes quelque chose qui est tatoué, on a quelque chose dans nos tripes qui fait qu'on a envie de donner ça. Et là, la foule dit « Amen !» Aidez-moi, s'il vous plaît. Me laissez pas tout seul. Ouais, t'as beau te cacher derrière le poteau, je te vois. l'ego, construire. Alors, je vais continuer mon passage. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc Jésus leur dit, voilà, prenez vos filets et allez les jeter au large pour pêcher. Et là, les pêcheurs disent, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Et hier, moi, j'ai dit la même chose. J'ai dit, Jésus, sur ta parole, je vais jeter mon filet sur cette jeune fille. Je ne suis pas là pour faire du nombre. Je ne suis pas là pour dire, bon, bah, allez, une de plus. Ce n'est pas ça que je veux. C'est que cette bonne nouvelle que j'ai en moi, ce désir, ce feu que j'ai, ça ne vous arrive jamais quand Antoine vient vous voir et vous dire, t'es enflammé. Antoine, il ne vous dit jamais ça. T'es enflammé. Lève la tête. Et bien moi, hier, j'avais ce feu-là et j'avais envie de donner à cette jeune fille. Et j'ai dit, Jésus, sur ta parole, je vais jeter mon filet pour que, voilà, elle puisse connaître qui tu es réellement. Jésus, elle a besoin de te connaître. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Voyez la résultante de la phrase « sur ta parole ». Sur ta parole, je vais jeter mes filets. On a pêché toute la nuit, il ne s'est rien passé. Mais toi, Jésus, j'ai foi en toi. Alex a parlé de la foi la semaine dernière. J'ai foi en toi et sur ta parole, je vais jeter mon filet et je vais attendre de voir ce qui va se passer. Et en fait, là, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Vas-y, Cassandre. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Le petit jeu de mots, il est marrant celui-là, non? Vous l'avez vu? Je suis un homme pécheur. Sympa quand même. Car l'épouvante l'avait saisi. Et le gars, il se dit « Sur ta parole, allez Jésus, j'ai un minimum de confiance en toi. Bon, peut-être un peu plus qu'un minimum. Je suis dans une moyenne, on va dire. » Je vais essayer. Tu me demandes de jeter mes filets, j'y vais. Et il a fait marcher sa foi. Il a fait marcher sa foi. Et de là, Jésus a fait en sorte que sa foi puisse avoir un beau résultat. Et là, ils sont dans l'épouvante. Purée, moi, si demain, on me dit, la jeune fille à qui tu as parlé hier, elle a parlé à toute l'école. Et ils viennent tous dimanche prochain au phare. Est-ce que vous croyez que je vais être dans l'épouvante à dire Jésus, mais c'est pas ça que je voulais? Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. J'aime beaucoup ce passage. Avec toutes les leçons qu'on peut tirer de ce passage, ne crains point. Moi, si tu prends ma parole, si tu obéis à ma parole, si tu la manges, si tu la digères, si tu la rumines, vous savez que les vaches ont plusieurs estomacs, elles ruminent. Elles ruminent parce que ça revient tout le temps. Et elles ruminent ce qu'elles ont déjà. Moi, je vous permets, on va tous vomir. Mais les vaches sont toujours en train de ruminer parce que leur estomac renvoie ce qu'elles ont mâché, avalé, etc. Et à la fin, ça fait du lait. C'est bon, le lait. Et donc, voilà, c'est la même chose. La parole qui est en nous doit être ruminée. On doit la ruminer. Toujours, et on est là, et Jésus doit faire en sorte que, quand on la mange et qu'on la mâche, et on la médite, c'est là qu'on a du résultat. Et c'est là où on voit les directions de Dieu, et c'est là où on voit que Dieu bénit dans nos vies. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? D'accord. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Deuxième jeu de mots. Ayant ramené les barques à terre, Ils laissèrent tout et le suivirent. Quel beau passage. Retenez ça, Luc 5, c'est un très beau passage. Donc le terme l'ego, pour un peu clarifier les choses, vous voyez, j'ai mis le grec et le latin. Donc l'ego, en grec, c'est dire, c'est parler. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 1238 mentions du verbe l'ego dans le Nouveau Testament. Peu importe, on s'en fiche, mais c'est pour dire que quand même, il y a pas mal de verbes dire. Alors, donc, si on tire du verbe dire, parler, voyez, c'est toute la résultante. Affirmer, maintenir, soutenir, enseigner, exhorter, conseiller, commander, adresser, annoncer par la parole, destiné à, moyen de dire, appeler par le nom, appeler, nommer, déclarer, mentionner. Et là, je pourrais arrêter mon prêche ici. Parce que le verbe lego, à partir du moment où on a pris et on a pris conscience que Dieu est en train de lego son église et que chacun de nous, nous sommes une pièce. Hop, si je fais ça et que j'en envoie une à c'était pour Holden. Ils sont deux pièces de l'église. Et là, c'est pareil, toute l'église dit oui, amen. Et du latin, recueillir, amasser en cueillant. Et là, c'est le terme moi, qui m'intéresse, c'est assembler, lego, assembler. De par le verbe dire, si on part dans le latin, c'est le verbe assembler, assembler quelque chose. Et bien moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et donc, on continue. Et donc, c'est pour ça que, vas-y Cassandre, le terme de lego, j'ai voulu lui donner une signification pour qu'on puisse tous le retenir. Qu'on ne soit pas, vous savez, des auditeurs oublieux. À dire, voilà, ben, j'ai entendu une prédication, Fred, il a ramené une Mustang, c'était bien, en lego. Au début, elle n'était pas Mustang comme ça, elle était pièce par pièce. Et au fur et à mesure, je voyais la Mustang se construire, etc. Quand j'ai commencé à mettre les roues, et c'est là où ça se finalisait. Mais j'ai voulu donner vraiment une signification au terme de lego. Pas simplement le jouet que j'ai là, mais aussi aller plus loin que ça. Donc la première signification que j'ai donnée à l'ego, c'est la liberté. La liberté. Vous savez que, on va les lire après, je vais passer les quatre lettres, mais il y a une notion de liberté qui est hyper importante dans la Bible. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu a fait de vous des êtres humains. Et là, c'est là que vous dites, bah Fred, tu n'as pas fini ta phrase. Non, j'ai pas fini ma phrase. Dieu a fait de vous des êtres humains avec une volonté, avec quelque chose en plus des animaux. On a entendu ça il y a 15 jours avec Alex, on était en formation ensemble à Paris, et ça a confirmé beaucoup de choses. Mais Dieu a fait en sorte qu'on puisse avoir un libre choix, et qu'on puisse avoir une conscience, qu'on puisse avoir cette réflexion de pouvoir dire oui ou non à ce que l'on veut ou pas. La liberté, elle est là. Dieu dit, voilà, moi, je vous ai donné au début une loi. Après, je vous ai envoyé mon fils qui a donné sa vie pour vous quand même. Il a quand même donné sa vie pour vous. Et à partir de là, vous êtes rentré dans une période qui est différente, mais qui est tout aussi belle. C'est la grâce. Et la grâce, elle est là pour vous apporter la liberté. Parce que, et on va le lire après, je vais continuer là. Vas-y, le E, Cassandre. C'est un équilibre. Avoir un équilibre spirituel. On continue. Le G, c'est pour grandir. Et enfin, le O, c'est pour l'onction. Liberté, équilibre, grandir, onction. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. C'est le terme de l'ego. C'est le fait de construire. Et je vais vous donner une phrase à la fin pour que vous puissiez vous souvenir de l'ego, réellement. Donc, juste pour, si on passe à la dia suivante. Galates 5, 13 à 15. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Voilà, j'arrête. On va aller plus loin, mais c'est écrit dans la Bible en toutes lettres. C'est à la liberté que vous avez été appelés. À la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Attention, on ne cherche pas l'anarchie, ce qui est complètement différent. On cherche la liberté en Jésus. La liberté, c'est quoi ? C'est exactement le même témoignage que ce que Christian a donné tout à l'heure concernant la worship d'hier. Il y avait une liberté où ils ont pu voir vraiment la manifestation de l'Esprit et voir même des personnes qui ont connu le principe d'être baptisées dans le Saint-Esprit. Parce qu'il y a cette liberté. Aujourd'hui, vous avez des églises qui empêchent toute manifestation de l'Esprit. Vous avez des églises qui empêchent à leurs membres de surligner dans la Bible. Vous avez des églises qui empêchent de taper dans les mains, qui empêchent de danser, qui empêchent de chanter parfois. Il y a des églises qui empêchent certaines choses comme ça. Alors que, si on prend Galates, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Même si à la liberté, je ne vais pas dire qu'il faut mettre un bémol, parce que là, tu vas me dire, ben non, Fred, c'est plus la liberté si tu mets un bémol. Non, ce que Dieu veut, c'est de l'ordre. Il veut de l'ordre. Mais on est appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. J'ai volontairement lu tout doucement ce passage pour que vous puissiez le ruminer. Parce que la liberté, elle est là. La liberté, elle est là. Elle est résumée dans le terme d'amour, c'est noté dans ce passage. Mais aujourd'hui, trop de fois, on entend des choses qui se passent dans cette liberté où on essaye forcément, je ne sais pas pourquoi, mais l'humain, avec un grand H, a toujours envie de se remettre une ceinture de sécurité ou de se remettre des limites. Vous savez, les limites. Vous savez, un jour, je vais faire... Il n'y a pas une feuille ici Ouais, si. Je ne vais pas la plier. Un jour, j'ai entendu un psychologue ou un psychiatre parler. Et il parlait de l'éducation des enfants. C'est pareil pour l'éducation des adultes. Et le psychologue disait, voilà, on a ici une feuille et vous avez un enfant que vous allez mener vers la vie adulte. Et votre principe et votre objectif, ça va être de l'éduquer, de lui apporter une éducation. Et donc votre enfant, ben, sur cette feuille, on va le mettre à un point A, ici. L'objectif, c'est que quand il soit arrivé à maturité, alors peu importe l'âge, il y en a qui ne sont pas matures à 30 ans, il y en a qui sont matures à 9. L'objectif de cet enfant, ça va être d'arriver à l'autre bout de la feuille. Et donc vous êtes là et vous allez devoir le mener, vous, parents, ou géniteurs, ou voilà, adoptants, ou voilà toutes les expressions qu'on peut prendre. Vous allez devoir le mener d'un point A à un point B. Et si votre enfant, bah, vous ne lui mettez pas de limite, il peut très bien bifurquer et tomber de la feuille. Ce qu'il vous faudra, vous, en tant que parent, je ne vais pas la plier, et il avait plié la feuille comme ça, et donc la feuille tenait comme ça, et il disait, voilà, l'enfant qui veut aller d'un point A à un point B, s'il a ses limites sur les côtés, il va venir se buter dans les limites, parce que vous serez là, et c'est vous qui aurez mis les limites. Et ce témoignage-là, il m'est resté gravé, parce que j'avais besoin d'être bien éduqué. Non. Mais c'est tellement vrai, c'est idem pour nous ici. Quand Dieu nous dit, vous avez la liberté, ce n'est pas le fait de dire, va du point A au point B, et Dieu nous dit, vas-y, ok, tu as la liberté, fais ce que tu veux. Non. Dieu a ce qu'il a fait, c'est que son objectif, c'est de pouvoir construire, et c'est de pouvoir être la parole. Jésus est la parole. Et donc, quand c'est comme ça, il dit, voilà, et on va les prendre tout à l'heure ces versets, il dit, voilà, moi j'ai mis des limites. La liberté, elle est, ok, vous faites ce que vous voulez, mais dans ces limites, eh bien, c'est là où vous allez pouvoir arriver d'un point A à un point B. Et c'est pour ça que la parole est là. C'est pour ça que la Bible est pour nous quelque chose de fondamental. Elle est fondamentale, la Bible. Ça va ? Ouais. Moi, c'est les choses qui m'excitent. De pouvoir voir comment Dieu a construit les choses, comment il a fait en sorte que toujours on puisse revenir à une base, à sa base à lui, à ses fondations à lui. Vous avez vu dans cette maison qui est là, la première chose que... Alors à l'époque, c'était peut-être... Je ne sais pas si c'était toi ou c'est Cassan, c'est qui, vous ne vous souvenez pas, c'est trop loin, hein. Bah ouais. Pourtant c'était l'année dernière, mais bon. La première chose qu'ils ont fait avant de construire la maison, ils n'ont pas commencé par les pièces vertes là, ils n'ont pas commencé par celle-là, ils ont commencé par le socle, et le socle, je ne vais pas l'enlever parce que je vais tout démolir, sauf si elle veut venir, non elle ne veut pas venir, le socle ici ce sont les fondations. Et à partir du moment où on a des fondations qui sont fermes, qui sont bonnes, eh bien à partir de là, on peut mettre la pierre de l'angle, celle qui va donner l'angle réellement du bâtiment, et après on va élever l'église. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est qu'à la fin, on puisse se faire plaisir en disant, ben voilà, ben l'église aujourd'hui, mon rêve, c'est de pouvoir voir ça dans l'église. Et moi, quand j'ai commencé par la première pièce, donc j'ai commencé par le châssis, etc., c'est que de pièce en pièce, au fur et à mesure du temps, je voyais ma voiture qui commençait à prendre forme et à prendre forme et à prendre forme. Et le désir de Dieu, c'est d'agir comme ça dans vos vies. C'est d'agir comme ça dans vos vies. Parce que forcément, vous n'êtes pas inférieur que les autres. Vous n'êtes pas inférieur. S'il y a quelqu'un qui se sent inférieur ici, on va prier pour lui tout à l'heure. Il n'y a pas de personne inférieure ici. Vous n'êtes pas inférieur. Dieu ne vous a pas fait inférieur. Il nous a juste fait légèrement inférieur à lui. Mais il ne nous a pas fait inférieurs les uns aux autres. Ce n'est pas même parce que tu as un handicap dans ta vie que tu es inférieur aux autres. Ton handicap est là pour te gêner et Dieu peut t'enlever ce handicap, il peut te guérir. Moi, clairement, je vais vous livrer un truc, hein, mais l'appareil que j'ai sur l'oreille gauche, il m'énerve. J'ai qu'une hâte, c'est d'entendre de nouveau de mon oreille. Que Jésus puisse guérir mon oreille et me rendre mon oreille. J'ai envie de ça. Et je sais que Dieu est capable. Dieu est capable et Dieu va me la rendre, mon oreille. Vous verrez un jour, je vais venir témoigner ici en disant « Ok, j'ai mon oreille. » Dieu est en train de construire. Ce matin, je parlais avec quelqu'un avant le culte et j'ai voulu encourager cette personne parce que c'est une personne que j'apprécie, qu'on apprécie ici. Et elle vit des choses assez, assez compliquées. Mais moi, je vois le cœur, comme Dieu voit le cœur, mais on voit le cœur et l'attitude de la personne. Quand on est dans l'épreuve, même si l'épreuve, Dieu l'accepte et Dieu la permet, après, il y a une volonté. On a été fait humain. Humain, c'est quoi ? C'est avoir une volonté, avoir un libre choix. Dire, Seigneur, dans l'épreuve, j'en ai marre, j'abandonne tout. Et c'est là où Dieu peut mettre une limite. Sonnez la feuille, il va mettre des limites. Ok, tu abandonnes tout, mais attends, tu vas voir les limites, elles sont là encore. Tu as une liberté, tu as la liberté de pouvoir baisser les bras. Dieu va t'attendre dans ses limites. Et puis il y a ceux qui vont garder ce feu en eux, en disant, ben non, moi je suis dans l'épreuve, mais je vais continuer. Je vais continuer, je suis soudé avec mon église, je suis soudé avec mes frères et sœurs. Et mon objectif, c'est de pouvoir toujours être avec eux. Et c'est eux, là, qui vont, dans ces moments difficiles, être avec moi. Parce que le jour où eux seront en bas, ben moi je serai en haut pour pouvoir les relever. C'est ça l'église. C'est de pouvoir toujours tirer ceux qui sont en bas vers le haut, et pas l'inverse, ceux qui sont en haut vers le bas. Souvenez-vous de ça. L'Église, elle est là parce que Dieu veut que chacun, nous puissions partir de la base vers le haut. Ceux qui sont encore à la base, on les tire vers le haut. C'était beau ce que je viens de dire ? Bah dites Amen ! Oh, c'est quand même pas vrai ça ! Ah là là ! Galates. Je vais le relire une fois. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Trop de fois, j'ai entendu des personnes qui vont voir d'autres personnes qui sont à l'épreuve. De toute façon, tu as une épreuve, c'est la volonté de Dieu, tu vas te gameler. Hein. Trop de fois, j'entends ça. J'exagère volontairement dans les propos. Mais parfois, on est maladroit. On n'a pas les bons mots pour aller dire à la personne, tu vas t'en sortir. Dieu est là. Dieu est là. Il te voit. Il a les yeux portés sur toi. Il a sa main sur toi. Tu es dans ses bras. Tu as ta tête sur son sein. Vous savez, comme ce que je partageais la semaine dernière avec Jean, qui avait là sa tête sur le sein de Jésus. Et c'est lui qui a pu, par cette proximité, aller demander à Jésus qui allait le trahir. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans la parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. La destruction est l'anathème de la construction. C'est l'inverse. On n'est pas là pour démolir, on est là pour construire. On est là pour construire. Et c'est passionnant. Et c'est pour ça que j'ai voulu juste mettre ça. La liberté, c'est complètement différent du légalisme. Le légalisme n'a pas lieu d'avoir, n'a pas lieu d'être ici dans l'Église. Le légalisme, on fera une prédication peut-être un jour sur ça, mais le légalisme n'a pas lieu d'être dans l'Église. Il faut pouvoir discerner le légalisme et de pouvoir dire stop. Stop. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous, on avait un chant, je suis un vieux chrétien, enfin, je fais partie des vieux chrétiens ici. Il y a plus vieux que moi, bien évidemment, bien plus vieux chrétien que moi ici. Je ne vise personne, mais il y avait un chant qui disait « Là où est l'Esprit du Seigneur, Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté, c'est la vie, c'est la liberté de l'Esprit. C'était ton chant? C'est toi qui l'as écrit? Bah, c'est pas toi alors, c'est pas ton chant. Mais c'est un chant, nous, quand je me souviens quand j'ai appris ce chant, on était dans une convention chrétienne, on était 2000 chrétiens dans le sud, sous un grand chapiteau, et on chantait ça à tue-tête. Et c'était là où on voyait vraiment l'action du Saint-Esprit. C'était beau. Il y a des chants comme ça où les paroles sont très simples parce qu'elles sont tirées de la Bible, et elles sont tellement impactantes. 2 Corinthiens 3:17. Même vous pouvez l'apprendre par cœur celui-là. 2 Corinthiens 3:17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen, amen, amen. Waouh, 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 waouh. Allez, je vais vous livrer le cœur de la parole. Et après, je vais m'arrêter. Le cœur de la parole de Dieu. Le livre de Jean a plusieurs mentions du terme parole. Le livre de Jean est un livre intéressant parce que, déjà, il faut savoir que Jean était le préféré de Jésus dans les apôtres. Il avait un chouchou, c'est marrant, hein. On n'a pas normalement de chouchou. Mais lui, il avait quelqu'un avec peut-être qu'il avait plus d'intimité. Comme ici, certains ont plus d'intimité avec d'autres. Ça ne veut pas dire que vous êtes les chouchous, mais vous avez plus d'intimité avec. Et Jean avait cette intimité avec Jésus. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'était le chouchou. Mais non, il avait peut-être plus d'intimité. Mais bon, chouchou. D'accord ? Il y a plusieurs mentions du verbe « il est ». Voilà, c'est des détails que je vous donne. Et puis, il y a le terme « parole ». Parole, la parole. Parole, dans le terme « Jésus, parole », qui est mentionné une bonne cinquantaine de fois de mémoire dans le livre de Jean. Et là, j'ai voulu juste prendre 4-5 versets pour pouvoir vous les lire. Donc, celui, le premier, on l'a pris tout à l'heure, donc le chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça va, ça? C'est la base. C'est la base. Aujourd'hui, Jésus est la parole. D'accord? Le second. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans l'éducation qu'a donné Jésus dans l'enseignement, pendant tout son ministère, il a donné un enseignement. Vous êtes réellement mes disciples. Vous voyez cette notion de si, il y a une condition. Si, alors vous serez. Mais s'il n'y a pas le si dans votre vie, vous ne serez pas. Ça veut dire qu'il y a quand même une notion d'obéissance. Si vous demeurez dans ma parole, si vous obéissez à ma parole, si vous avez mangé, digérer, ruminer ma parole, vous serez alors mes disciples. Et puis la parole, je vous rappelle que c'est Jésus. Si Jésus vit en toi, si Jésus est dans ta vie, si on voit Jésus, si tu transpires Jésus, si tu as toujours ce désir de pouvoir parler de Jésus, si tu es là et que tu as ce feu pour Jésus, c'est là où on voit que tu es un disciple. On n'est pas là pour faire des chrétiens. À la base, le terme même chrétien était une insulte. Dans les Actes des Apôtres, c'était une insulte. Et puis à un moment, parce qu'on appelait les gens qui suivaient Jésus, l'enseignement de Jésus, des chrétiens. D'accord ? Mais le but, c'est de faire des disciples. C'est de pouvoir arriver à une notion de disciple pour pouvoir construire l'Église. Suivant. Donc ça, c'était 8:31. 8:51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça veut dire que si tu gardes la parole, si tu as Jésus dans ta vie, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Peut-être que j'aurai un deuxième amen la deuxième fois. En vérité, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça veut dire que si tu as Jésus dans ta vie, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Bande de faillots. Vous avez fait ça juste pour me faire plaisir. Vas-y, Cassandre. 14:23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Donc non seulement tu as Jésus dans ta vie, tu as l'enseignement de Jésus dans ta vie, mais si en plus tu transpires Jésus, tu es aimé du Père. Amen. J'ai réveillé Christiane. Ah non, pardon. Mon Père t'aimera. nous viendrons à lui, nous, mon père et moi, nous viendrons à lui. Il va même pas attendre que qu'on vienne à lui. C'est eux qui vont venir. Ah, ok, t'as ma parole en moi. Bah attends, j'arrive. J'arrive. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux ? T'as un désir dans ton cœur ? Moi, je vais mettre des choses dans ton cœur, dans ta vie. Mais je serai là. Avec le Père, on est là. Oh, oh. On est là. Réjouis-toi. Ne crains pas. Vous savez, tout à l'heure, on a lu dans Galates. Ne crains pas. Ne crains pas. Je suis là pour te bénir. Je suis là pour t'apporter quelque chose de bon dans ta vie. Vous savez qu'en ce moment, il y a une grosse polémique avec le terme de prospérité dans nos milieux. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais la prospérité, elle est vraie. Jésus veut qu'on prospère à tous égards. C'est écrit en toutes lettres dans la Bible. Dieu veut que l'on prospère à tous égards. À tous égards. Je n'ai pas rajouté de mots, hein. c'est le verset véridique. Hein. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Mais pour ça, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc vous voyez, c'est va crescendo. S'il m'aime, forcément, s'il m'aime, il garde ma parole. Est-ce que ça veut dire que si je n'aime pas Jésus, je ne peux pas avoir sa parole ? Ben, il faut quand même aimer un minimum Jésus pour avoir sa parole en soi. Et donc, s'il m'aime, il garde ma parole, alors mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Et c'est là où le fameux verset qui dit « Si Christ est avec nous, qui sera contre nous ?» Parce que s'il est en toi, il ne peut rien t'arriver. Parce que tu as une couverture spirituelle, tu as un sceau. Vous vous souvenez, j'avais fait il y a longtemps de ça. J'ai prêché sur le sceau de Jésus. On est tous avec un sceau de Jésus. Jésus reconnaît qui l'aime. Jésus reconnaît qui est son disciple. Jésus reconnaît qui veut le servir. Jésus reconnaît qui a un cœur pour lui. Jésus reconnaît. Jésus vous reconnaît. Jésus te reconnaît. Il sait qui tu es. Il regarde à ton cœur. Cachez votre joie. Allez, dernier. 15:3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est là où on est appelé saint. Parce qu'on a la parole en nous. Jésus fait en sorte qu'on puisse être saint. À ses yeux, on est saint. Bien évidemment, il faut qu'on continue à rentrer dans cette parfaititude. C'est beau comme terme. Je vais déposer le brevet, parfaititude. Il veut qu'on devienne parfait et qu'on puisse s'améliorer de jour en jour, et tout le temps, et tout le temps. Mais pour lui, on est saint. Il nous regarde comme saint. Et si tu pêches, parce que tu pêches, chaque jour tu pêches, il y a toujours une occasion de chute, il y a toujours une occasion où tu vas avoir la langue qui fourche, tu vas dire un gros mot, tu vas insulter quelqu'un, tu es au volant de ta voiture, papa, je veux conduire, ta toto, to. Et puis vous avez un qui vous fait une queue de poisson. Ça vous arrive jamais, ça ? Je suis le seul à qui ça arrive dans ma Ford Mustang ? Un mec qui grille un stop devant vous. Quand je suis en moto, je vois on est un peu plus haut, on voit les gens qui sont en train d'envoyer des SMS, puis vous les voyez comme ça. Même en voiture, peu importe, mais vous les voyez. Ce matin, j'ai encore eu le coup avec Pascaline. À un moment, je vois personne sur la route. La dame est à terre droite, elle se met au centre. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait ? Et personne, j'arrivais derrière. Et quand je l'ai doublé par la droite, oups, parce que bon, je n'allais pas passer sur la troisième file, j'ai regardé, elle était là comme ça. Et là, on a envie d'envoyer un petit nom d'oiseau, espèce de rossignol, un truc comme ça. Non ? Ça vous arrive jamais ? Oh, vous êtes trop parfait. On n'a plus de boulot ici. Alex, on ne peut plus rien faire, on n'a plus de travail. Antoine, si, on peut fermer boutique, ils sont tombants. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Waouh, waouh, waouh. Que de belles promesses, non ? Vous ne trouvez pas que ce sont des belles promesses, tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit endroit là dans votre cœur qui est excité par le fait de dire « Oh, mais Jésus vit en moi ? Jésus vit en moi ? » Ah ouais ? Ça veut dire qu'il y a des moments où je fais des choses mal, il les voit forcément. Ben oui, il vit en toi. Il est là. Ça veut dire que je peux l'attrister ? Ben ouais. On peut attrister le Saint-Esprit, c'est noté en toutes lettres dans la Bible. On peut attrister le Saint-Esprit. Mais on a ce privilège. On a ce privilège d'avoir un Dieu qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Vous connaissez la différence entre le chrétien qui croit en Dieu et toutes les autres religions ? c'est que toutes les autres religions ont un Dieu qui veulent que ses fidèles donnent leur vie pour leur Dieu, alors que nous, c'est notre Dieu qui a donné sa vie pour nous. C'est là la différence. C'est là la différence. Ça ne va pas plus loin que ça. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, de construire ensemble, de construire. Si tu as quelque chose contre ton frère, ta sœur, va le voir. Dis-lui. Demande-lui pardon. Fais-le. Fais-le. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai demandé pardon à quelqu'un. Ça a été dur. Ça a été dur. Il a fallu que je le fasse, parce que Dieu me l'avait mis dans le cœur. Et je termine avec la dernière dia. Ayons la liberté, amenant à l'équilibre, afin de grandir dans l'onction. L'ego. 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 Ayons la liberté amenant à l'équilibre, cette liberté qui amène à l'équilibre, vous savez, ces fameuses limites, pour qu'on puisse avoir un équilibre à la fois dans notre vie spirituelle, dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans notre vie parentale ou d'enfant, dans notre vie d'église, dans notre vie sociale, professionnelle, qu'on puisse avoir un équilibre, que l'on puisse transpirer de ce que l'on a réellement en nous, ce que l'on a réellement. Moi, j'ai plaisir à témoigner. J'ai plaisir à témoigner, à parler de ma foi aux gens. Et dès que je peux, je vous assure que je saute sur l'occasion. Parce que c'est là où il y a un équilibre. Notre objectif, il est très clair. C'est l'humain. Dans toute la Bible, Dieu veut qu'on partage la bonne nouvelle pour pouvoir sauver un maximum de personnes. On n'est pas là pour faire des méga-church. On n'est pas là pour faire des... J'ai rien contre les méga-church. Si un jour, ici, on est 3000, c'est très bien. On va être un petit peu serré. Un petit peu. Mais ce sera comme ça. C'est que Dieu l'aura voulu. Mais ce qu'on veut, et c'est ce que vous pouvez ressentir aussi dans le cœur d'Antoine quand il parle, c'est que lui, s'il n'y a pas une personne à la fin d'un culte qui ne donne pas sa vie à Jésus, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Parce qu'on est là pour pouvoir transpirer l'amour entre nous. Alors c'est peut-être un peu joli, vous allez dire c'est un peu pompeux ton discours Fred, mais je parle pas de l'amour, on se fait tous des gros câlins à longueur de journée, on n'est pas des bisounours, mais c'est de pouvoir montrer un minimum d'affection, de respect, et de pouvoir dire oui, oui, on est frères et sœurs. Alors venez pas m'appeler mon frère, j'aime pas ça, mais on est frères et sœurs, on est frères et sœurs. J'ai choqué en disant ça, j'ai choqué, il y en a qui veulent, bah appelez-moi mon frère si vous voulez. Après, il y a une façon de le dire. Il y a les gens qui viennent voir. Bonjour mon frère. Moi j'ai des frères, j'ai 4 frères dans la vie. Je vais pas. Salut mon frère. Pourtant c'est mon frère. Je l'appelle par son prénom. Appelez-moi Fred. Non mais bref, je bifurque. Ayons la liberté amenant à l'équilibre afin de grandir dans l'onction. L'objectif final, c'est de pouvoir avoir cette onction que l'on va apporter pour sauver un maximum de personnes. Et que quand Jésus va revenir, il puisse dire à chacun, viens, rentre dans la paix de ton Père. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Amen. On va se lever.